Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'Inca et le conquistador, c'est le titre de l'exposition que propose depuis hier et jusqu'au 20 septembre le musée du Quai Branly. L'occasion pour Franck Ferrand de revenir sur Pizarro et la conquête du Pérou. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Pour évoquer les Incas, pour évoquer Atahualpa d'un côté et Pizarro de l'autre, puisque les deux points de vue sont développés dans l'exposition, j'ai convié à nous rejoindre le biographe de Francisco Pizarro, auteur d'une récente histoire de l'évangélisation en Amérique espagnole, une histoire intitulée « Au nom des Indiens ». J'ai nommé le professeur Bernard Lavallée.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marie sur l'origine du couloir de la mort aux États-Unis.
Voilà une question bien sombre, mais après tout, pourquoi pas? Pour le moment, je vous propose d'aller, que dis-je, de monter, de grimper jusqu'à Cusco.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Comment se faire une idée aujourd'hui de l'éblouissement des conquérants espagnols, des conquistadors, de Francisco Pizarro et de ses hommes, lorsqu'après un périlleux voyage, ils sont tombés sur les splendeurs de l'Empire Inca. Ce devait être incroyable pour eux, ce devait être insensé. Les voilà soudainement en présence d'une des plus brillantes civilisations de l'histoire. Une civilisation qui étend son emprise sur un territoire immense de près d'1 million de kilomètres carrés, autant dire 2 fois la France, du nord du Chili et de l'Argentine jusqu'à la Colombie, l'essentiel se situant évidemment dans l'actuel Pérou. Qui sont donc ces Incas dont la capitale est Cusco, une ville d'environ 300 000 habitants, une ville perchée à 3400 mètres d'altitude? Très vite, les Espagnols comprennent qu'ils sont tombés sur le plus grand, sur le plus peuplé, le mieux organisé et, évidemment, ce qui importe avant tout à leurs yeux, sur le plus riche de tous les peuples de cette Amérique dite précolombienne. Ces Incas sont issus d'une tribu originaire de la région de Cusco qui peu à peu a su imposer son autorité. L'expansion est relativement récente au moment où ils arrivent, puisqu'elle a eu lieu dans les années, au milieu du 15e siècle. En quelques années, au cœur du 15e siècle, écrivait Guianquin, Pachacuti et son fils Tupa Yupanqui avaient conquis un puissant empire du nord du Chili à l'actuel Équateur. Ils avaient réussi à donner une unité politique et administrative à tout ce complexe andin, celui des hautes terres comme celui du littoral. Une douzaine de millions d'Indiens étaient soumis à leur autorité, moins conquérants que ses ascendants, Huayna Capac, qui règne de la toute fin du 15e siècle à 1527, hisse la puissance Inca à son apogée. Huayna Capac, c'est le père du célèbre Atahualpa dont on va parler dans un instant, le dernier Inca dont l'histoire est bien triste. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la religion de ces Incas qui rendent un culte au soleil, appelé Inti. Il est représenté par une statue installée dans le temple du soleil. Évidemment, tout ça fait penser à Tintin un peu. En 1528, la mort de Huayna Capac va provoquer une grave crise parce qu'il y a 2 fils susceptibles de lui succéder. Il y a un aîné qui est l'héritier, Huascar, qui est, si vous voulez, l'héritier légitime, et puis Atahualpa qui était le fils préféré de Huayna Capac et qui est né, lui, d'une concubine. Alors, il faut vous dire que les règles de succession sont pas forcément très claires chez les Incas et que le pouvoir revient parfois au plus décidé, au plus entreprenant des parents du défunt. Atahualpa est soutenu par les provinces du Nord, notamment la région de Quito, etc. Et Huascar, son demi-frère, s'appuie sur la capitale, Cusco, dont il a été, du reste, gouverneur. Ce Huascar est un homme pacifique, nous dit Jean Bablon, débonnaire, amoureux et perdu de sa maîtresse, l'étoile d'or, soucieux seulement de chasse, de fêtes et de plaisirs. Il est d'un caractère doux, assez flexible, semble-t-il, alors qu'Atahualpa, lui, c'est très différent, c'est la bravoure, la détermination. la volonté de Capac de choisir Atahualpa a sans doute jeté le désarroi dans la famille royale, mais aussi, d'une façon plus générale, dans les élites incas, chez les généraux, chez les gouverneurs, etc. Les deux héritiers vont donc plonger l'Empire dans une sorte de guerre civile. En 1529, Atahualpa est emprisonné par les hommes d'Huascar et... tout ça dans des circonstances assez troubles, puisque les fidèles de son demi-frère assurent que ça s'est passé lors d'une bataille, alors que ceux d'Atahualpa parlent d'une capture lors d'un déplacement sans escorte. Atahualpa réussit à s'échapper grâce à ses partisans, il rejoint Quito, il réorganise son armée, on est dans le nord, toujours il va prendre des villes et son armée, disons-le, commet à ce moment-là de grandes atrocités. Les habitants vont fuir peu à peu le nord et venir renforcer les provinces qui sont loyales à son demi-frère. En 1530, en réponse, Huascar envoie son armée dans le nord avec pour objectif de prendre la capitale, mais c'était mal connaître Atahualpa qui réussit avec ses quatre généraux à reprendre le pouvoir. Les chefs de l'armée adverse sont exécutés et l'armée d'Atahualpa va commencer à prendre la route du sud. En 1531, Huascar lui envoie une nouvelle armée qui de nouveau est battue. Et là, Atahualpa continue en quelque sorte à progresser vers le sud et vers Cusco. En 1532, Huascar tombe dans une embuscade, il est fait prisonnier. Atahualpa prend vraiment le pouvoir et il devient l'empereur, il devient l'Inca, le 13e du nom. Atahualpa est donc en route pour Cusco avec son demi-frère qu'il promène maintenant enchaîné. Il est à mi-chemin entre sa capitale Quito et puis la capitale de l'Empire lui-même, Cusco. Et là, il reçoit une nouvelle assez étonnante. C'est la nouvelle de l'arrivée d'hommes blancs et barbus dans la baie de Tumbes. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que avant même l'arrivée des Espagnols, un violent mouvement d'opinion s'était fait jour à l'encontre de l'empereur et qu'à cause de ces batailles extrêmement violentes, il était devenu, cet Atahualpa, très impopulaire. Les légitimistes péruviens voyaient en lui un usurpateur qui s'était emparé par la violence du trône appartenant à son demi-frère. La foule gardait un souvenir épouvanté de la rage méthodique avec laquelle il avait fait assassiner au cours d'un banquet tous les membres de la famille royale, femmes et enfants compris, afin que nul ne pût dorénavant lui disputer le pouvoir, écrivait Marcel Brion. Or, et sa personne n'aurait pu le prévoir, les Espagnols correspondent trait pour trait à ce que des superstitions populaires annonçaient, c'est-à-dire qu'on annonçait l'arrivée de Dieu, en quelque sorte, qui viendrait châtier Atahualpa pour ses mauvaises actions. Et voilà qu'arrivent ces personnages qui ressemblent un peu aux justiciers célestes attendus par la population. Évidemment, les Espagnols vont en profiter et vous pouvez leur faire confiance pour cela.
Un extrait de la bande originale du film Mission, composé par Ennio Morricone. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les Incas, la conquête du Pérou et Francisco Pizarro.
Et voilà, Francisco Pizarro qui arrive, évidemment. Il était né en 1478. C'est un cousin de Cortés, du reste, qu'il admire extrêmement pour s'être emparé de l'Empire aztèque et qu'il rêve d'imiter d'une certaine manière. Alors, nous allons tout à l'heure revenir sur la jeunesse un peu difficile, sur la carrière non moins difficile de ce Pizarro, en compagnie de son biographe. Il semblerait qu'il parte en 1502 pour le Nouveau Monde parce qu'il n'a pas tellement le choix et que pour lui, les voies sont un peu obstrué du côté de l'Espagne. Alors il va réussir aux côtés d'Alonso de Ojeda, de Vasco Núñez, ce qui lui permet de s'approprier un peu de richesse. Il a des Indiens pour travailler les terres. Il cherche... Que cherche-t-il d'après vous? Eh bien évidemment, rappelez-vous José Maria de Heredia. Il cherche de l'or avant tout. Il récupère un navire, s'associe au Panama avec un aventurier. On est là dans 1524. Avec un prêtre également, il ne faut jamais oublier cette dimension-là, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cours de l'émission. L'objectif, c'est de découvrir ce fameux empire très riche dont on entend parler, sous le nom de Pirou, et qui évidemment laisse imaginer quasiment, c'est la Golconde, hein, c'est l'Eldorado pour employer le terme approprié. L'expédition va prendre la mer en novembre 1524, grâce à l'aide du Panama, du reste, un navire, deux canots, 80 hommes et un voyage qui va se révéler désastreux. C'est lors d'un arrêt au-delà de l'équateur que des marchands indiens parlent d'un grand port situé plus au sud. C'est justement le port de Tumbes auquel je faisais allusion tout à l'heure. A priori, l'hostilité des tribus côtières empêcherait la progression des conquérants au-delà. Pizarro a décidé que c'est bien l'endroit où il avait l'intention de débarquer. Alors il attend quelques renforts. En vain, le gouverneur au Panama a changé. On propose simplement le rapatriement aux membres de l'expédition qu'il désire. Pizarro se dit qu'il surmontera toutes ses adversités. Il propose aux plus courageux d'entre eux de l'accompagner et en guise de récompense, il leur assure une certaine partie du butin, bien entendu. Vous savez, c'est comme ça qu'on procède. Ils sont 12 à se proposer pour accompagner Pizarro, c'est pas beaucoup. Le conquistador va donc attendre 7 mois que de nouveaux volontaires se proposent, ce qui sera chose faite en 1528. Alors, il faut imaginer ce port de Tumbes sur la rive méridionale de l'actuel golfe de Guayaquil. C'est le premier contact, en quelque sorte, entre les Européens et cette civilisation inconnue. La ville est fortifiée, on ne peut pas s'en emparer. Pizarro prend la mesure des enjeux. Il commence par retourner dans son pays d'origine pour aller plaider sa cause devant la cour et pour essayer de demander, bien entendu, des renforts et des soutiens. Vous savez que Charles Quint est, lui, par définition, très intéressé par ses conquêtes et par l'or qu'elle pourrait rapporter à la couronne. Il est soutenu, du reste, Pizarro, par Cortés notamment. Il va se voir confier par le roi cette conquête du Pérou. On signe les accords de Tolède le 26 juin 1529. C'est très intéressant, alors là, du point de vue de l'histoire de France, cette date, puisque c'est le moment où Charles Quint, écœuré de ce qui est en train de se passer en Europe, avec ce qu'on appelle notamment la Ligue de Cognac, se retourne complètement vers le Nouveau Monde. Donc ça n'est pas un hasard, mais je ferme vite cette parenthèse pour revenir à ce qui nous intéresse directement. Le retour en Amérique de Pizarro avec ses frères Hernando, Gonzalo et Juan. Il dispose de 3 navires, de 123 hommes, de 27 chevaux. Ah, mais là, ça commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Il apporte lui-même 2 navires et 100 hommes quand même. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est que Pizarro connaît la situation de l'Empire Inca grâce à des Indiens qui ont été capturés, qui vont lui servir du reste d'interprète. Il veut se rendre auprès du nouvel empereur. Alors il faut imaginer le voyage sur lequel nous allons revenir dans un instant, qui a été très particulièrement dur, sous un soleil brûlant, sous les neiges éternelles de la... Enfin, sur plutôt des neiges éternelles de la cordillère des Andes. Les soldats sont prompts à se décourager, on peut les comprendre, mais Pizarro est là qui tient avec cette espèce de poigne qui est celle des conquistadors. Cajamarca est situé à plus de 3000 mètres d'altitude. Autant vous dire que pour des gens qui ne sont pas habitués, l'air se raréfie et devient difficile. Les Espagnols devient rare. Les Espagnols s'arrêtent. La ville est abandonnée puisque le peuple a fui là. Et Pizarro choisit le propre palais d'Atahualpa comme résidence. Son armée va prendre place dans les bâtiments qui entourent la place principale. Immense place principale. On est en présence d'un urbanisme totalement stupéfiant pour les conquérants, bien entendu. On est là le 15 novembre 1532, et Pizarro envoie l'un de ses proches, Hernando de Soto, à la rencontre de l'empereur qui se trouve à 4 de nos kilomètres de là, à peu près. L'objectif, c'est de le convaincre de venir. C'est d'accepter une rencontre. Hernando de Soto s'habille, il se pare de ses plus beaux vêtements, de plumes, et le voilà parti à cheval, ce qui compte beaucoup évidemment, à la rencontre de l'Inca. Je dis ça compte beaucoup parce que les Incas ne sont pas habitués à voir des chevaux, bien entendu. Atahualpa le reçoit, il est habillé de laine blanche, très fine, La particularité de ces habits, c'est avant tout leur simplicité. Atahualpa porte un bandeau autour du front dont les franges retombent jusqu'à ses sourcils. L'Inca était assis, jambes croisées, à la manière des Turcs, raconte ou imagine Marcel Brion, sur une sorte de tronc bas qui avait été dressé au milieu du camp. Autour de lui se pressait une foule bariolée d'officiers et de fonctionnaires, chamarrés de laine multicolore, crêtés de panaches, agitant des éventails en plumes de perroquet et des chasse-mouches d'un jaune éclatant. La couleur locale n'est jamais très loin chez Marcel Brion. Cette foule s'ouvrit devant Hernando de Soto qui, sans descendre de cheval, enleva son chapeau d'un geste gracieux. L'Inca ne semblait pas l'avoir vu. Les yeux inclinés vers le sol, Atahualpa, indifférent à toutes les choses du monde, paraissait plongé dans une profonde méditation. Les seigneurs de sa cour, figés soudain dans une immobilité de statue, gardaient le même silence. On n'aurait rien pu voir de plus inquiétant, de plus sinistre que cette foule d'hommes dont les regards impénétrables révélaient soit une complète impassibilité, soit une prodigieuse forme de dissimulation. Sans se laisser décourager par la froideur de l'accueil, Soto fit faire une courbette à son cheval et, remettant sur sa tête un chapeau empanaché, récita de cette voix solennelle qui convient à l'ambassadeur d'un grand monarque, la harangue que Pizarro lui avait fait apprendre par cœur. « Je viens vers vous, envoyé par le grand roi d'au-delà des mers, le souverain que nous servons et qui est le maître de toute la terre, a appris vos récentes victoires, il s'en réjouit et il nous a dépêchés vers vous pour vous apporter ses félicitations. » En toutes circonstances, il vous prêtera son bienveillant concours, et comme les choses de la religion passent dans des préoccupations avant toutes les, dans les préoccupations de mon maître, avant toutes les autres, il a délégué vers vous le saint homme que voici, chargé de vous convaincre de vos abominables erreurs, de vous amener à la foi catholique et de vous convaincre ainsi, de vous conduire pardon ainsi vers le paradis que vos ancêtres plongés dans les ténèbres de l'impiété n'auront pas connu. Je suis pas sûr que le discours traduit par les interprètes ait été particulièrement bien accueilli. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt l'indifférence générale en face. Atahualpa prend la parole. « Dites à votre général que je ne peux le voir aujourd'hui car mon temps de jeûne et de prière n'est pas écoulé. J'irai le saluer demain. D'ici là, qu'il demeure dans les bâtiments que je lui ai assignés. » Atahualpa attendait fasciné par les récits. On lui faisait de ces hommes vêtus d'armure et montés sur de fabuleux animaux. Il était comme hypnotisé par l'étrange prophétie de ses ancêtres qui semblait sur le point de s'accomplir, nous dit notre auteur. Ainsi, pensait-il, les conquistadors étaient donc les Huiracochas, ces dieux blancs et barbus venant de l'Ouest et qui allaient dominer l'Amérique. Ah là, on peut dire qu'il avait effectivement bien vu, il n'imaginait même pas jusqu'à quel point.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission quand vous le souhaitez. Nous envoyez vos messages et vos questions, la page Facebook de l'émission, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH et puis par mail europe1.fr. Merci d'avoir choisi Europe 1. Dans la suite d'Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, vous continuerez de nous raconter la conquête du Pérou par Francisco Pizarro.
Économie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les Incas et le conquistador Francisco Pizarro est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, la conquête du Pérou par les Espagnols.
Alors, vous avez bien compris qu'Atahualpa se considère encore tout à fait maître chez lui. Il décide du reste de ne pas se rendre à la rencontre des Espagnols, malgré ce qu'il avait dit la veille, ce qu'il avait laissé entendre plus exactement. Il va camper près des portes et ne fera son entrée que le lendemain donc. Et puis, il change d'avis, il consent à se rendre, à rentrer dans la ville, dans Cajamarca, le soir même. Et ça s'est donné à Pizarro sa première victoire, d'une certaine manière. Il sera accompagné d'une escorte, mais une escorte sans armes. Inutile de vous dire que les Espagnols en face se méfient, bien entendu. Ils savent très bien que les forces sont totalement disproportionnées. Les soldats de l'Inca sont au moins 100 fois, que dis-je, même encore bien plus nombreux que cela. C'est un déséquilibre absolu entre les deux forces armées, si je puis dire. Même si l'armement des Incas est assez primitif, hein. Ce sont des dards, des javelots, des frondes, des lassos, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'hommes, bien sûr. Pour ne pas se laisser surprendre, Pizarro établit un plan. Il s'agit de surprendre les Incas, des cavaliers tout équipés et des artilleurs. La mèche au poing sont là, qui sont cachés. Il s'inspire là exactement de ce qu'avait fait Cortés. On avait raconté l'arrestation de Montezuma, l'empereur aztèque, dans une autre émission. On est dans des conformations relativement identiques. Au coucher du soleil, voilà donc Atahualpa qui entre dans la ville. Alors il faut imaginer un véritable défilé de 2000 Indiens, comme on les appelle. D'abord un escadron revêtu d'uniformes rouges et verts, suivi de 3 compagnies de chanteurs et de danseurs, des esclaves qui portent des vases, des couronnes d'or et d'argent, et puis l'empereur lui-même qui est assis sur une sorte de somptueux pavois, et puis derrière d'autres seigneurs qui eux-mêmes sont portés sur des litières ou des hamacs, etc. Ce cortège entre dans la cour du palais, il faut imaginer le calme qui règne, sont là uniquement Pizarro et quelques capitaines. Le silence devient très dense d'une certaine manière et c'est le père Valverde qui s'avance à la rencontre de l'Inca. C'est un prêtre dominicain qui lui demande au nom de Dieu et du roi Charles Quint de se soumettre à la loi du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le dominicain va faire une chose, il prend une Bible et il dit que cette Bible parle et ce qu'elle dit, etc. Les termes qui sont traduits par les interprètes. Alors, que fait tout naturellement Atahualpa? Il prend le livre qui parle, il le porte à son oreille. Il dit qu'il n'entend rien du tout et il jette la Bible à terre. Sacrilège ! Hurle Valverde aussitôt. Et l'on entend aussitôt un autre cri, Santiago ! Et le premier coup de canon, c'est le signal qu'attendaient les Espagnols, évidemment. Les Incas sont complètement stupéfiés. Atahualpa n'a même pas eu le temps de donner d'ordre. L'attaque a été très brusque. L'empereur a fini par être arraché littéralement de son siège. On l'a jeté à terre. Il est fait prisonnier. On va massacrer des milliers d'Indiens. Aucun Espagnol n'est blessé, sauf Pizarro, qui, semble-t-il, ce jour-là, est blessé au bras. Mais encore par un de ses compatriotes, pas par un Inca. Je ne devrais pas dire un Inca, puisque l'Inca, c'est l'empereur, mais pas par un des indigènes, disons. Atahualpa est emmené dans un de ses palais, il est emprisonné dans une salle de pierre. Alors là, on entame des négociations, il va falloir trouver une rançon, n'est-ce pas? C'est la mode du côté occidental. Alors, il promet de remplir la salle dans laquelle il se trouve emprisonné jusqu'à la hauteur de sa main levée, dressée au-dessus de sa tête, vous imaginez? Alors, pourquoi pas? Les Espagnols acceptent, on trace une espèce de ligne sur la paroi de la chambre et on admet que tout le volume de cette pièce jusqu'à hauteur de cette ligne doit être rempli d'or et d'argent, de trésors. Atahualpa ne peut pas réunir ce butin rapidement, vous l'imaginez. Il va falloir que de tous les coins de l'Empire, on apporte des trésors, etc. Et c'est à ce moment-là que Huascar va en profiter pour entrer en contact avec un Espagnol qui vient d'arriver sur le territoire depuis peu, qui s'appelle Almagro, et pour lui proposer de payer une rançon bien plus importante. « Moi, je connais Cusco, dit-il. Moi, je sais où sont les richesses. » Quand Atahualpa, qui a été renseigné par des gardiens, apprend cette chose, il va donner l'ordre à distance, tout prisonnier qu'il est, mais enfin c'est un prisonnier d'État pour le moment, il va donner l'ordre de mettre son demi-frère à mort. Il sera lui-même, ce demi-frère donc sera noyé dans la rivière d'Andamarca. Et il va, à ce moment-là, bien sûr, il va maudire son demi-frère. Il va lui promettre une fin rapide sous les coups de ces hommes blancs qui se sont emparés réellement de son empire. Bonjour Bernard Lavallée.
Bonjour.
Nous allons suivre la fin d'Atahualpa en votre compagnie et puis surtout nous allons revenir sur la carrière de Pizarro et sur tout ce que cela suppose, parce que je n'ai fait qu'effleurer la matière dans ce récit.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La conquête du Pérou et le conquistador Francisco Pizarro sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le professeur émérite de civilisation hispano-américaine à l'université de la Sorbonne, Nouvelle Paris 3, Bernard Lavallée, auteur notamment du livre Francisco Pizarro, conquistador de l'extrême, paru aux éditions Payot.
Alors Bernard Lavallée, j'ai laissé Atahualpa en bien singulière position et même on peut dire dans une position dangereuse puisque ça va aller de plus en plus mal pour lui.
Et effectivement, et je dirais même en très fâcheuse position, et car autour de la personne de Pizarro va se nouer en fait un jeu politique très complexe et évidemment très dangereux pour lui. Vous l'avez dit, Atahualpa était un prisonnier d'État, donc il continuait d'avoir des liens avec, disons, sa capitale, ses proches qui n'étaient pas à Cajamarca, etc. Mais le problème qui va se poser pour les Espagnols va être le suivant. En fait, on attend que la rançon dont vous avez parlé soit réunie, et elle va l'être.
On remplit
cette pièce d'objets d'or qui sont d'ailleurs martelés de façon à ne pas occuper trop de place et pour que jusqu'à la ligne dont vous avez parlé on puisse en mettre davantage, mais aussi deux autres pièces identiques vont être remplies d'argent. Mais le problème qui va se poser pour les Espagnols, c'est qu'une fois qu'ils ont la rançon réunie, qu'ils peuvent en profiter, question politique, que faire d'Atahualpa? Et là, il semble bien qu'il y ait eu deux positions. Je dis il semble bien parce que nous n'avons pas de témoignages tout à fait dignes de foi, mais il semble bien que l'entourage de Francisco Pizarro, et notamment ses frères, était pour la solution qui a été ensuite retenue, c'est-à-dire la mise à mort d'Atahualpa. Mais il semblerait que Pizarro lui-même n'était pas convaincu, du moins au début, que ce soit la bonne solution. Autrement dit, il y avait deux options qui s'offraient aux Espagnols. Tuer l'Inca et assumer seul le pouvoir au Pérou, ou, autre option, garder Atahualpa et essayer de trouver un accommodement entre la couronne d'Espagne qui, bien entendu, voulait s'installer, et l'Empire Inca, dont on aurait pu conserver, par une sorte de collaboration, les intérêts.
Et en même temps, conserver les sources de richesses.
Et les sources de richesses, bien entendu. Alors, autrement dit, si vous voulez, c'était une solution, deux solutions, ou une sorte de colonisation un peu métisse, ou une colonisation sans état d'âme et totale. Et c'est la deuxième solution qui a été retenue.
Et pourquoi? Pour des raisons religieuses?
Pour des raisons religieuses, non, je crois surtout pour des raisons politiques. C'est-à-dire que l'entourage militaire de Pizarro n'a pas voulu partager. Ils ont pensé qu'il fallait faire du passé table rase et qu'il fallait assumer seul la conduite de la guerre, la conquête et bien entendu n'avoir à partager avec personne les énormes richesses qui allaient en découler.
Moyennant quoi les fameuses richesses, ils ne les ont pas eues dans leur totalité, loin de là, puisqu'elles sont restées pour une bonne part cachées des Espagnols qui ne savaient pas où les trouver. Voilà. Ils ont profondément démantelé l'Empire Inca, qui était une structure très forte et très efficace. Et puis surtout, pour nous, de notre point de vue, ils ont détruit une civilisation.
Alors effectivement, la conquête au Pérou comme ailleurs, comme au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique, a été un saccage archéologique considérable. Lorsque, au bout d'un an, un an après Cajamarca, les Espagnols sont arrivés au nombril de l'Empire, c'est-à-dire la capitale Cusco, ils ont été éblouis par la quantité énorme d'or et d'argent qu'il y avait dans la ville. Les témoignages là sont nombreux et ils nous disent même qu'au bout de quelques semaines, les Espagnols étaient en quelque sorte écœurés par tant d'argent, par tant d'argent et tant d'or. Mais néanmoins, ils se sont mis à essayer de rapiner, de voler tout ce qu'ils pouvaient. Ils le faisaient eux-mêmes, ils le faisaient par leurs auxiliaires indiens. Ils se sont mis à déterrer systématiquement ou à ouvrir les tombes, car ils savaient que les nobles étaient enterrés avec des bijoux et des objets d'or et des toiles précieuses et des tissus précieux, pardon. Et ils ont creusé un peu partout. Dans les régions où il y avait des pyramides, ils ont pensé que sous les pyramides, on allait trouver des tombes elles aussi, ce qui était le cas pour certaines, mais pour d'autres, c'était des sortes de lieux de culte dont il n'y avait rien. Et puis, et ça c'est particulier au Pérou et aussi à une certaine région de Colombie, les Indiens, lorsqu'ils ont vu arriver la troupe espagnole, auraient jeté une partie de leurs richesses dans des lacs. Et là, on a vu les Espagnols entreprendre d'assécher les lagunes andines pour essayer de trouver au fond ces trésors dont on leur avait parlé. Quelquefois, ça a été le cas, mais évidemment, ça a été rarement quand même le cas. Mais néanmoins, ce mythe des lagunes enchantées, en quelque sorte, va durer, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, on voit se créer des compagnies, au sens commercial du terme, pour assécher les lagunes et pour aller retrouver, au fond, ce qui peut-être s'y trouvait.
Peut-être une réminiscence de ce qui se passait chez nous avec les Celtes, mais enfin ça, c'est un autre sujet. Oui. Nous allons bien sûr venir à Pizarro et aux conquistadors dans un instant, j'aimerais leur consacrer la dernière partie de l'émission. Mais avant cela, un mot peut-être des Incas, de cette civilisation tellement brillante, telle qu'on la voit dans l'exposition du musée du Quai Branly. Hein.
Effectivement, ce qui a séduit les Espagnols, évidemment, c'est l'apparence, c'est l'extraordinaire profusion d'or et d'argent. Mais derrière cette profusion qui était en fait, qui correspondait à ce qu'il voulait, à ce qu'il cherchait, il faut bien comprendre qu'il y avait là une société, une culture extraordinairement développée. Et pourquoi ? Eh bien, vous avez très justement dit que l'Empire Inca était récent. Donc, il apparaît au milieu du XVe siècle.
C'est un jeune empire.
C'est un jeune empire qui n'a que quelques générations derrière lui. Mais en fait, et c'est ça qui est important, c'est un empire qui a réussi à faire la synthèse de toutes les cultures andines qu'il avait précédées. Donc, cet empire qui n'a que, disons, 70-80 ans, en fait, est l'héritier...
Il s'est enrichi de tout le legs des civilisations précédentes.
Exactement. Il a, disons, fait le choix entre ce qui était utile et ce qui pouvait être abandonné. Et ce qu'on peut appeler la civilisation Inca était véritablement un bilan positif de tout ce qui avait précédé les Incas dans les Andes.
Il a un petit côté tapageur, un peu cet empire, non ? Il fait un petit peu toc, si je puis dire, même si c'est de l'or, c'est de l'or fin, hein, dont on parle. Mais
c'est-à-dire que c'est un empire qui a, disons, plusieurs aspects, comme toutes les sociétés, bien entendu. C'est d'un côté un empire très organisé et militaire. C'est une société militaire. C'est aussi une société théocratique dans laquelle le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont confondus. Mais le problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'arrivée des Espagnols se situe à un moment où cet empire relativement jeune connaît de profondes fractures. La fracture dont vous avez parlé, qui est celle des deux héritiers, des deux aspirants au trône, mais aussi une autre qui est importante, c'est que lorsque les Espagnols arrivent, ils vont bien sûr jouer de cet antagonisme entre les deux princes, mais surtout, ils vont réussir à gagner à leur cause et à leur armée des peuples qui avaient été conquis parfois très durement par les Incas, et selon le vieux principe que nos ennemis,
voilà.
Les ennemis de nos ennemis sont nos amis, eh bien, bien sûr, il y avait très peu d'Espagnols, ils n'étaient même pas 200 à Cajamarca.
Mais ça suffit.
Mais ça suffit parce qu'il y avait aussi des milliers d'auxiliaires indiens qui ont fait la guerre contre les Incas.
Ces auxiliaires indiens, ils forment le levier qui explique cette conquête.
Hein, absolument.
C'est fondamental. Alors, pardon, Vanessa nous dit via Facebook que nous avons oublié une civilisation du nord du Pérou que les Incas ont tué, les Mochés. Le musée de Lambayeque retrace leur histoire, nous dit-elle, et c'était très raffiné, ces Mochés.
Si vous voulez, une idée très, très longtemps et fréquemment dite, c'est que les Incas négociaient l'annexion des royaumes ou des cultures qui les entouraient. Alors, c'était vrai et faux. Ils proposaient une annexion, disons, pacifique. Si elle était acceptée, les peuples concernés étaient englobés dans l'Empire sans dommage majeur, et même sans dommage du tout. Par contre, s'ils résistaient, ils étaient soumis à une guerre sans pitié, et ensuite, ils étaient privés de leurs élites locales, privés de leur religion particulière, et soumis à une véritable colonisation. D'où le fait que dans certaines régions, ces Indiens, soumis par la force, ont vu arriver les Espagnols comme des libérateurs.
Ah oui,
ils se trompaient bien, mais évidemment.
Je me rappelle, étant enfant, avoir pleuré sur le sort du pauvre Atahualpa, mais en vérité, ça n'était pas un tendre Atahualpa, ce qui n'enlève rien à la splendeur de la civilisation dont il était l'incarnation, bien entendu. Alors, avec vous, dans un instant, on va venir à Pizarro, très précisément, et puis d'une façon plus générale, aux conquistadors, à leurs motivations et à leurs méthodes.
De votre enfant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le musée du Quai Branly à Paris propose l'exposition L'Inca et le Conquistador jusqu'au 20 septembre. Francisco Pizarro et les Conquistadors sont au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, le professeur émérite de civilisation hispano-américaine à l'université de la Sorbonne, Nouvelle Paris 3, Bernard Lavallée, auteur notamment du livre Francisco Pizarro, Conquistador de l'extrême aux éditions Payot.
Et auteur d'une histoire de l'évangélisation en Amérique espagnole qui s'appelle Au nom des Indiens. Et justement, Martin nous pose une question, il voudrait savoir si cette volonté des Espagnols de convertir les Incas à la religion catholique était sincère ou bien si elle ne servait que des visées politiques.
Je dirais que les conquérants eux-mêmes ne se posaient pas le problème. C'est-à-dire que la volonté de convertir les Indiens à ce qu'on appelait autrefois la vraie foi, entre guillemets bien sûr, faisait partie de l'opération. Et surtout faisait partie de quelque chose qui est très important. Les conquérants sont des soldats qui travaillent pour leur compte, mais au nom de la couronne d'Espagne. Et la couronne d'Espagne, elle, conçoit son implantation à la fois comme celle d'un pouvoir politique et d'un pouvoir religieux.
Bien sûr. Donc, assez indissociable en l'occurrence.
Tout à fait, absolument indissociable. Il n'y a pas de différence, il n'y a rien qui sépare les deux pouvoirs. Et par conséquent, donc, le conquérant de base, celui ou ceux dont on parle aujourd'hui, ne se pose guère le problème. Mais il est évident que dans le projet, en fin de compte, politique, qui soutient et qui sous-tend la conquête, l'implantation de l'Église et de la foi chrétienne est un élément absolument indissociable des aspects politiques et économiques.
Vous qui avez travaillé sur la biographie de Francisco Pizarro, quelle est l'image de ce conquérant aujourd'hui dans le monde hispanique? Est-ce qu'il est un héros ou est-ce qu'au contraire il est un anti-héros du fait des dégâts qu'il a commis contre la civilisation?
Pour vous répondre, je le ferai en vous indiquant depuis, disons, 1923, je crois, ou 27, je ne sais plus, sur une place annexe de la place principale de Lima, il y avait une énorme statue équestre en bronze de Pizarro. Il y a une dizaine d'années, cette statue a été déboulonnée et replacée dans un jardin qui était en construction.
Beaucoup plus discret.
Comment ?
Beaucoup plus discret.
Beaucoup plus à l'écart et, disons, un endroit où, pour la voir, il faut vraiment faire l'effort d'y aller. Donc je crois que ce déplacement est symbolique, comme tout déplacement de statut. Notre continent connaît bien celle-là aussi, n'est-ce pas ?
Un sujet à part entière.
En effet. Mais disons qu'aujourd'hui, il est évident que Pizarro est, pour beaucoup de latino-américains et en particulier de péruviens, le symbole d'un processus de colonisation qui a laissé dans l'histoire nationale et dans l'histoire continentale un souvenir terrible, puisque ça a été un saccage archéologique, ça a été aussi la conquête et la colonisation ensuite ont eu un coût humain considérable et pendant des siècles. Donc effectivement, si Pizarro, sans aucun doute, fait partie de l'histoire du Pérou, il n'en est pas moins vrai qu'il en est l'élément le plus représentatif du volet le plus cruel et, de ce point de vue, aussi repoussé dans la mesure où il est uniquement espagnol et par conséquent qu'il ne considère en rien le monde indien, la composante indienne qui est quand même essentielle.
Eh oui, bien sûr, pour lui ça n'existait pas. Il y a eu donc une forte évolution dans l'image du personnage, puisque il faut dire que quand on se promène en Espagne aujourd'hui, on voit beaucoup de fresques, de mosaïques, etc. à la gloire de Cortés, de Pizarro, etc. qui longtemps ont été considérés comme ceux qui avaient permis à l'Espagne de s'enrichir et de devenir une très grande puissance.
Absolument. Et effectivement, si vous voulez, ce qui s'est passé au Pérou, mais dans d'autres pays d'Amérique latine aussi, c'est que, disons, depuis grosso modo, disons, les années 20 du XXe siècle, la composante indienne de l'identité nationale a été de plus en plus étudiée, a été de plus en plus mise en valeur, et effectivement, cet élément est en jeu, je dirais, avec la composante espagnole. Donc il y a un phénomène de compensation.
Il faut dire que cette population de substrat n'a pas disparu, bien entendu.
Loin de là.
Les Espagnols ont dû composer avec. D'ailleurs, ils ont essayé de la servir pendant un temps, sans grand succès, du reste.
Voilà, ils ont essayé de la servir. D'ailleurs, si l'on regarde bien comment les choses se sont passées, on s'aperçoit que plus que l'or, c'est la domination de la main-d'œuvre qui a été le moteur essentiel de la conquête de l'Amérique. Et la population indienne au Pérou comme ailleurs a subi un choc microbien, a subi les guerres de la conquête, a subi la désarticulation de l'empire, a subi le travail dans les mines et qui a été effroyable pour elle. Et cette population a chuté, selon les régions, d'entre deux tiers ou neuf dixièmes.
Oh là là, oui.
Et puis, peu à peu, à partir de la fin du XVIIe siècle, elle a remonté. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, les descendants des peuples indiens sont majoritairement, sont l'élément majoritaire de la population de ces pays, même si, bien sûr, ce sont des régions, des pays métis, dans lesquels tous, ou presque tous, ont aussi des ancêtres espagnols.
Alors je feuillette, tout en vous écoutant, professeur, je feuillette ce très beau catalogue de l'exposition. C'est très intéressant de voir qu'il y a à la fois des témoignages de la civilisation Inca et d'Atahualpa, etc., et puis des témoignages de la civilisation espagnole à son apogée et des conquistadors, et notamment de Pizarro, bien entendu, qui est un personnage essentiel.
Hein. Voilà. Et justement, un des éléments essentiels de l'exposition du Quai Branly, ça a été de bien montrer les deux composantes, la composante espagnole, la composante indienne, qui est magnifiquement représentée, et une troisième composante,
et qui est, il ne faut pas oublier,
qui est celle des livres, c'est-à-dire, en fait, des témoignages de la mémoire. Et là, nous avons la chance d'avoir, bien entendu, de nombreux témoins ou de gens qui avaient connu des témoins, qui ont laissé des livres parfois très importants, qui montrent d'ailleurs que tout de suite, ces événements sont inscrits dans des controverses politiques très, très importantes. Mais en plus, et ça c'est une particularité péruvienne, on a la chance d'avoir un chroniqueur indien du début du XVIIe siècle, donc qui n'avait pas connu ces événements, mais qui en avait entendu parler par sa famille, qui s'appelait Wamampo Madayal, et qui a laissé une chronique extraordinaire. Pourquoi ? Parce que non seulement elle fait près de 2000 folios, mais la moitié sont des textes en espagnol ou en langue indienne, et l'autre moitié sont des dessins. Donc nous avons une sorte, excuse-moi le terme, de bande dessinée,
voilà, c'est ça, ouais,
qui est extraordinaire parce qu'elle montre la vision, comme on le dit un livre célèbre, la vision des vaincus, et ça c'est quand même tout à fait original.
Vous appelez votre personnage, votre conquistador, Pizarro, vous l'appelez le conquistador de l'extrême. C'est vrai qu'il lui a fallu une volonté absolument extravagante et un caractère hors du commun pour mener ses hommes en dépit de toute adversité jusqu'au but. D'où venait-il ? Il avait des origines assez humbles, en vérité.
Alors, Pizarro est originaire d'Estrémadure, une région du sud-ouest de l'Espagne, à l'époque très pauvre et très enclavée. C'est le fils d'un militaire de moyenne noblesse, ce fils bâtard, comme on dit à l'époque, d'un militaire de moyenne noblesse, et d'une jeune fille appartenant à une famille de paysans qui n'était pas particulièrement pauvre. Et donc, c'est un homme qui est, en quelque sorte, à la marge de la famille de son père, qui le reçoit, mais en le maintenant quand même à l'écart, et de la famille de sa mère, qui ne le reconnaît pas véritablement non plus. Donc c'est un homme qui, pour commencer, est analphabète, il sera analphabète toute sa vie, et c'est un homme qui, pour sortir, pour vivre, n'a qu'une solution, quitter son Trujillo natal, aller à Séville, et là, s'engager dans l'armée. Et en fait, ce qui va être le fil rouge de toute l'histoire de Pizarro, ce sont deux éléments. C'est le premier dont vous venez de parler, son extraordinaire ténacité. Et le deuxième, c'est un soldat. Alors un soldat, un soudard, vous savez qu'au VIe siècle, la frontière entre les deux n'est pas très claire et en tout cas fluctuante. Mais je crois que ce sont les deux éléments qui caractérisent cet homme, avec bien entendu une résistance à toute épreuve.
Et une soif de l'or absolument inouïe, hein, qui l'anime littéralement.
Ce sont des gens qui, lui et les hommes qui l'accompagnent, ce sont des gens qui viennent de rien. Ce sont des gens qui viennent du néant, pour la plupart, je veux dire du néant social, bien entendu.
Oui.
Et ce sont des gens qui ont compris que la seule façon pour eux de devenir quelqu'un, c'est de gagner leur fortune à la pointe de l'épée. D'où aucune considération, aucun scrupule d'aucune sorte, et une volonté constante d'avoir toujours plus et d'aller voir toujours plus loin si le pays qui est au-delà de l'horizon réussira encore mieux que le précédent à satisfaire leurs ambitions.
Alors, c'est vrai qu'Atahualpa a mal fini, puisqu'après avoir été baptisé, il a été gentiment étranglé quand même par les Espagnols, mais on ne peut pas dire que Pizarro s'en soit beaucoup mieux sorti.
Alors Pisan n'en s'en est pas du tout mieux sorti, puisque lui-même, moins de 10 ans après, a été tué. Mais ce qui est intéressant...
Tué dans des batailles internes.
Alors justement, j'allais venir à cela. C'est que, en fait, la conquête du Pérou comporte deux phases. Une guerre entre les Espagnols et les Indiens, qui dure, disons, de 1532 à 1535, et une seconde phase qui... dans laquelle, bien sûr, il continue à y avoir des problèmes militaires avec les Indiens, mais qui est dominée par les rivalités et les guerres civiles entre les factions espagnoles. Car, je l'ai dit tout à l'heure, les conquérants combattent pour eux. Ils combattent au nom de la couronne, mais pour eux. Donc ce sont des armées privées et des armées par conséquent rivales. Et Pizarre, en 1541, va finir sous les coups d'une douzaine de partisans qui était partisan du fils de son adversaire principal, Diego de Almagro. Il va être tout simplement percé de coups d'épée dans son palais de gouverneur.
Francisco Pizarro de Bernard Lavallée, c'est une biographie Payot, et toujours de Bernard Lavallée, Au nom des Indiens, une histoire de l'évangélisation en Amérique espagnole chez Payot, et puis ce catalogue de l'exposition L'Inca et le Conquistador qui est coédité par les éditions Actes Sud. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces deux hommes et des civilisations qu'ils incarnent.
Merci.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondra à la question de Marie sur l'origine du couloir de la mort aux États-Unis.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Marie qui vous pose une question cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Voici son message. Je voudrais savoir pourquoi les prisonniers américains condamnés à mort doivent attendre si longtemps dans le couloir leur exécution.
Eh bien, pour tout vous dire, chère Marie, moi aussi j'aimerais bien le savoir, parce que c'est une question terrible que vous posez. Alors d'abord, le couloir de la mort, vous savez, ça c'est un terme qui a été inventé par les journalistes, bien sûr, c'est un abus de langage, il n'y a pas de couloir de la mort, c'est une cellule, tout simplement, cellule individuelle, puisque les condamnés à mort, comme dans tous les pays où existe la peine de mort, sont isolés des autres prisonniers, bien entendu. Vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des exécutions ont lieu par injection létale, il y a encore quelques États où la terrible électrocution. Il faut quand même dire que sur les 50 États des États-Unis, 31 appliquent encore la peine de mort. Mais il faut noter que 80% des peines de mort exécutées l'ont été dans 3 États. Ça, faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, parmi tous ces États, 3 États où la peine de mort est vraiment effective. C'est le Texas, le Missouri et la Floride. Alors, vous savez qu'effectivement, les condamnés à mort aux États-Unis attendent en moyenne, 13 ans leur exécution. Vous imaginez ça? Avec un stress complètement phénoménal, bien entendu, qui crée des problèmes qu'on peut même pas imaginer. Pourquoi cette très longue durée? Pour des raisons complexes à expliquer, qui tiennent, semble-t-il, essentiellement à l'obligation de laisser aux condamnés la possibilité de présenter tous les moyens de recours juridiques devant les différentes cours d'appel, jusqu'à la Cour suprême, bien entendu, en dernier recours. Inutile de vous dire que un grand nombre d'associations, etc., dans le monde, s'élèvent contre cette durée extrêmement longue, déjà, bien sûr, contre la peine de mort, mais aussi contre cette application extrêmement lente qui pose des problèmes qui dépassent largement le cadre d'une émission d'histoire. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Qu'est-ce qui nous pousse à changer de religion, à tenter la conversion? On se pose la question aujourd'hui avec le philosophe, sociologue et historien des religions Frédéric Lenoir, et puis avec une invitée rare, Véronique Lévy, la sœur cadette de Bernard-Henri Lévy, qui s'est convertie au catholicisme et raconte pourquoi dans un livre surprenant.
J'aime beaucoup votre concept d'invité rare. Merci beaucoup Marion. Nous nous retrouvons demain, chère Ombline.
À demain Franck.